Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées.
Rien à manger dans les sacs, et quand j'ai demandé de l'aide aux voisins, il m'est arrivé dessus. Je crève de faim. Je peux pas vous attendre ici, je suis désolé. Entre-temps, j'ai une idée d'un endroit où je pourrais peut-être trouver de quoi vivre et apprendre des trucs qui nous seront utiles. C'est un peu risqué, mais mon instinct me dit que c'est possible.
J'essaie de rejoindre Gaillard. Je cherche mes parents. Je suis désolé.
Je vous aime. Où que vous soyez, prenez soin de vous.
C'est parce que tu flippes que t'es aussi décousu?
Ouais, clairement.
Olivier Escalon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste et vous êtes présent au sein de ces rencontres de l'écologie pour nous présenter un film débat. Vous nous proposez Effondré, qui est l'histoire d'une rencontre entre un homme qui fuit la ville pour rejoindre ses parents en vain. Et lors de son périple, il rencontre par hasard une jeune femme solitaire et qui vit dans la nature en totale autonomie. Et donc, il y a en quelque sorte un apprentissage de l'existence, du quotidien, mais aussi de la relation humaine.
Ouais, en fait, à la base, donc, j'avais envie de parler de la question de l'effondrement, mais j'avais pas forcément envie de présenter l'effondrement tel qu'on a tendance à le voir souvent, c'est-à-dire à la manière d'un film de zombies où après l'effondrement, c'est horrible, tout le monde s'entretue, etc. Et puis, du coup, j'avais envie plutôt de raconter une histoire d'amour dans un contexte d'effondrement, mais plutôt dans un écrin de verdure, dans la nature. C'est filmé dans le Diwa. Et voilà, j'avais envie de présenter ces personnages et de les faire évoluer dans cet univers-là. Donc, en fait, ouais, on est plus sur une histoire d'amour en temps d'effondrement.
L'action se situe en 2035, hein, je crois.
Ouais, 2030, 2035. C'est pas vraiment, c'est pas précisé.
Et donc c'est un film de science-fiction, on peut dire.
Ouais, disons plutôt d'anticipation, ouais.
Et quelle est cette anticipation? Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à démontrer l'effondrement par ce court-métrage, parce qu'il fait 57 minutes, hein.
Ouais, en fait, c'est un moyen-métrage. La motivation, c'était qu'en fait j'ai travaillé en fait pendant 2 ans et demi pour une chaîne YouTube qui s'appelle Partager c'est sympa. Il y a peut-être pas mal de monde qui connaissent. Donc c'est une chaîne YouTube qui est très engagée sur les questions écologiques. Et donc j'ai collaboré pendant cette période avec Vincent Verza, le fondateur de la chaîne. Et en gros je l'ai aidé sur toute la partie vidéo. Et pendant cette période, j'ai fait mon apprentissage écologique en accéléré et j'ai notamment découvert les questions d'effondrement. Et ça m'a, comme beaucoup de monde, je pense, profondément marqué. Bon, forcément, déprimé. Ça a été tout un processus pour moi d'accepter un peu toutes les informations dont je disposais, et ça m'a fait énormément évoluer dans ma manière de voir le monde. C'est vraiment l'information, le domaine qui m'a le plus fait évoluer, je pense, de mon existence. Et du coup, comme toutes les choses qui nous marquent profondément, quand on est un peu artiste, et qu'on peut, ça peut amener on a envie d'en faire une œuvre d'art. Et donc je suis auteur-réalisateur Et j'avais vraiment cette démarche. Jusqu'ici, j'avais fait que des petits courts-métrages. Et là, j'avais vraiment envie de prendre le temps de raconter une histoire dans ce contexte et d'y mettre un peu tout ce que moi, j'ai eu la sensation de vivre à titre personnel. Donc, par exemple, je suis venu m'installer dans le DIY il y a 2 ans et demi. Et j'y ai découvert la vie à la campagne. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec le film, dans le sens où là on est vraiment pas du tout dans le même contexte, mais il y a plein de choses que j'ai pu vivre par rapport à la question de l'effondrement, tout ce processus d'apprentissage, toute cette tristesse que ça peut amener, mais aussi ces nouvelles opportunités qu'on se met à imaginer, la nouvelle manière dont on a d'imaginer une nouvelle vie en fait, dans laquelle qu'on pourrait vivre. Disons qu'on tous les projets qu'on pouvait se faire depuis notre enfance sur la vie qu'on comptait mener, on les remet un peu en question et on imagine un autre chemin, un autre parcours. Et c'est un peu ça que ça a amené pour moi l'effondrement. Et je pense que le film que je voulais faire restitue un peu, pas de manière littérale évidemment, mais restitue un peu toutes ces évolutions que j'ai pu connaître en moi.
Alors, le contexte, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Pour vous, c'est un peu, quelque part, une genèse de quelque chose ?
En tout cas, j'avais pas d'intention de faire de référence à la genèse, Adam et Ève, tout ça. C'était pas du tout mon intention. Simplement, tout bêtement, j'aime bien les histoires d'amour. Et puis ce que j'avais envie de montrer, donc, comme je l'ai dit, c'est qu'après l'effondrement, il y a la vie continue, il y a une autre vie après l'effondrement et elle peut être belle. Et pour moi, en fait, il y a des besoins primaires qui sont manger, boire, respirer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'une expérience de vie vaut la peine d'être vécue en quelque sorte ? C'est de l'amour. Et de la beauté. Pour moi, c'est les deux choses. Et pour moi, la beauté, c'est la nature. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront dire le contraire, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment l'essence de la beauté. Et donc, tant qu'il y a encore la nature et tant qu'il y a encore de l'amour entre les individus, alors la vie vaut d'être vécue, même sans tout le confort dont on dispose à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que vous démontrez dans ce film par rapport au quotidien ? Est-ce qu'il y a justement ces petites révolutions des tâches quotidiennes qui se sont établies, qu'on peut voir dans ce film ?
Ben en gros, c'est l'histoire de Tim qui va vivre avec Manon pendant quelques temps. Et Manon, sa vie, son quotidien, c'est d'assurer son autosuffisance alimentaire. Donc elle est déjà sortie du schéma un peu de la société telle qu'on la connaît, la société consumériste. Elle s'en est extraite et on découvrira au fil du film pourquoi elle s'en est extraite. Ça va venir assez tard. Et donc en fait, Tim, lui, par contre, il est extérieur à ça. C'est un citadin, il a fui la ville. Et du coup, lui, ce qu'il va découvrir, c'est... cette vie, la vie de Manon, et il va se mettre à l'aider, et il va reconnecter en quelque sorte avec la vie au sein de la nature, avec le travail physique dans ce contexte-là, un contexte qui est quand même plutôt très très beau puisqu'on a filmé le film du côté de Beaumont-Diwa. Et puis effectivement il va découvrir un autre quotidien, il va aussi avoir des temps dans la nature qui sont pas des temps de travail, mais où il va pouvoir justement réapprendre à prendre le temps à apprécier. Mais ça, c'est en filigrane du film, mais en tout cas c'était une notion importante pour moi.
Pour amener cette dimension de l'anticipation dans cette proposition de film, qu'est-ce qui dénote du quotidien ? Je repose un peu la question, mais est-ce que vous vous êtes documenté aussi sur l'outil ou peut-être des objets qui serviront dans le futur ? Ou alors est-ce qu'il y a des systèmes à créer encore ou des outils tout simplement ?
En gros, ça se passe pas si loin dans le futur, et de toute façon, Manon vit en autonomie et plutôt sur des concepts perma, en tout cas. De toute façon, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'électricité, donc tout ce qui est machine agricole, outils électriques, outils thermiques, elle n'y a pas accès. Tout est manuel, donc on pose pas, c'est pas la question des outils qu'elle va utiliser, c'est euh, c'est plutôt un autre mode de vie, une autre façon de vivre. Ça, on n'est pas parti, enfin, je suis pas du tout parti dans une réflexion sur les low-tech ou ce genre de choses, même si c'est très intéressant.
Alors, c'est plutôt un contact direct avec la nature et puis un dialogue avec elle. C'est ce qui semble être avec l'héroïne. Tim, lui, fuyant la ville, est peut-être fort démuni pour arriver dans cet espace.
C'est ça, en fait. En gros, Manon est clairement le personnage de celle qui transmet la connaissance. Et Tim, lui, est clairement un peu, pour prendre des termes un peu de scénario, c'est un peu le naïf. En fait, c'est le personnage qui va permettre aux spectateurs de découvrir et de pouvoir obtenir des réponses aux questions. Parce qu'en fait, Tim, les questions qu'il se pose sont les mêmes que celles que se pose le spectateur. Enfin, dans une certaine mesure, parce que sur l'effondrement, il est quand même vachement... Sur ce qui s'est passé, en tout cas, il est vachement plus renseigné que le spectateur. Pour le spectateur, les informations sur l'effondrement vont arriver d'une manière extrêmement... légère, petit à petit au fil du scénario, parce que ouais, l'idée c'était vraiment de pas en fait, si vous voulez, c'est plus un huis clos dans la nature. J'avais une problématique qui était que je voulais faire un moyen métrage, à la base un court métrage sur l'effondrement, mais qui, et donc c'était un film autoproduit, et donc se posait la question de comment est-ce que je fais un film sur l'effondrement, mais avec un budget très faible, puisque le film a été réalisé, tourné en une semaine avec une équipe bénévole, et avec un budget de 11 000 euros. Et donc, dès l'étape du scénario, j'ai tout de suite pensé l'histoire de manière à pouvoir faire quelque chose qui coûte peu cher. Et donc, en gros, c'est assez simple, ça se passe dans un lieu qui est retiré dans la nature, donc une petite maison avec un potager. Après, il y a des scènes de nature aux alentours, et puis seulement deux personnages. Après, il y a des micro-apparitions autres, mais j'en dirai pas plus. Mais donc, en fait, l'idée, c'était aussi, en choisissant de parler de l'effondrement sous l'angle de deux personnes qui sont complètement paumées dans la nature, de pouvoir aussi permettre d'en parler, tout en maintenant un budget assez faible. Donc pas de voiture en feu, pas de d'autoroute bloquée, on est loin de tout ça.
Avant de créer du court métrage ou du moyen métrage, vous avez été journaliste pour la télévision, vous avez été cadreur, journaliste et monteur également. Qu'est-ce que vous avez appris au sein de la télévision ? Est-ce que ça vous a justement doté de ces capacités de pouvoir opérer des tournages et de produire même un film ?
Alors, à la base, moi, j'étais JRI. JRI, ça veut dire journaliste reporter d'image. C'est un métier qui a été créé avec la miniaturisation technique des caméras, du son, et qui fait qu'en fait, on a des journalistes qui sont capables de réaliser un reportage tout seul de A à Z. Ça veut dire que, à l'époque, je travaillais pour Télé Grenoble, donc c'est une télévision locale, et tous les jours, je partais avec ma caméra, mon micro, et je faisais des interviews. Je tournais mes images, à la fin je rentrais à Télé Grenoble, je faisais mon montage et à la fin de la journée j'avais un reportage de 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Et ça, ce que ça m'a appris, bah, c'est tous les aspects du métier de l'audiovisuel. Mais l'audio, attention, parce qu'il y a quand même une différence entre audiovisuel journalistique et audiovisuel cinématographique. C'est-à-dire que sur le cinéma, on est sur une exigence immensément plus grande en termes d'image, avec du matériel plus lourd, plus complexe à utiliser, et il y a des métiers ultra spécialisés. Dans le journalisme, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'information, et l'image est plus une image témoignage. Même si moi, dès l'origine, j'ai eu toujours beaucoup, beaucoup d'attrait pour l'image, et que du coup, je passais beaucoup de temps à faire des images, essayer de ramener des belles images. C'était un peu une obsession. Et du coup, assez vite, je me suis mis à utiliser un peu la réalisation. La réalisation, c'est quand vous commencez plus à construire vos séquences. C'est-à-dire, par exemple, bah là, monsieur, je vais vous voir arriver en train de marcher jusqu'à moi, et puis ensuite je vais vous filmer en train de faire ci, en train de faire ça. Donc, plus essayer d'organiser pour avoir quand même l'image qui me permettait d'illustrer. Par exemple, si je filmais un maraîcher, j'allais lui dire, bon, bah, est-ce que vous pourriez porter ci, porter ça, etc. Vous pourriez faire ci, faire ça, et comme ça, j'avais les différentes situations. Mais donc, appréhender toutes ces techniques m'a permis d'avoir une vision assez globale de l'audiovisuel. Et ensuite, j'ai pu, derrière, creuser chaque aspect. Et donc, ça m'aide en fiction, par exemple. Parfois, il y a des réalisateurs qui accordent peu d'importance au son. Moi, je peux vous dire que le fait d'avoir fait des interviews fait que je suis extrêmement sensible à la question du son et donc ça m'aide aussi à communiquer avec l'ingé son. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres.
Comment s'est constituée l'équipe et combien vous étiez pour opérer ce tournage? Et on peut parler aussi des comédiens.
Alors, sur le tournage, on était à peu près une vingtaine. J'ai eu la chance de participer à une école de cinéma qui s'appelle l'Atelier 7, qui a été créée par le collectif des Parasites, qui ont fait la série L'Effondrement sur Canal+. Ce collectif des Parasites a créé une école, donc c'était juste un mois, une espèce de résidence pour les jeunes, pour faire des films pendant un mois. Et ils étaient là pour nous soutenir, nous accompagner, nous aider. J'ai eu la chance donc d'être sélectionné dans cette école en 2020, et donc j'ai passé un mois avec plein de jeunes. Voilà. Et ces jeunes, c'était beaucoup des personnes, donc il y avait 11 garçons, 11 filles, qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient passionnés de cinéma, ils voulaient en faire leur métier, et souvent ils avaient déjà fait des choses. Et je me suis retrouvé, en fait, au milieu de plein de jeunes, je dis jeunes parce que j'étais le plus vieux, je me suis retrouvé au milieu de plein de jeunes hyper talentueux. Et c'est ces personnes-là, en fait, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes, de ces personnes que j'ai recrutées derrière pour venir faire mon film. Et quand je dis recruter, c'est pas recruter monétairement, puisque c'était bénévole, mais juste j'aurais dit est-ce que ça te dit de venir sur mon film, et ils étaient tous super motivés. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de gens et j'ai eu énormément de chance d'avoir ces personnes qui étaient des jeunes pros ultra doués. Ensuite, par rapport aux comédiens, par contre, je les connaissais pas à la base. J'ai recherché un petit peu sur internet. Par un contact commun, j'ai pu avoir le contact de Muriel Huet-Désonnet, qui joue le rôle de Manon. Muriel, c'est une personne qui a joué dans des films au cinéma, qui a fait beaucoup de téléfilms et qui dernièrement a joué dans le téléfilm Neige, qui a été diffusé sur France 2 et qui a fait de très bonnes audiences. Donc son visage est quand même pas inconnu. C'est une très grande comédienne, elle a 20 ans de carrière derrière elle déjà. Et elle est, en fait, quand j'ai eu la chance de pouvoir l'auditionner, c'est compliqué parce que c'est une personne qui travaille professionnellement, qui peut être très demandée. Mais elle était acceptée. Elle a accepté de participer au tournage. Et donc on a organisé des castings avec. Elle est venue à ces castings. Il y a également Arnaud de Grandry qui joue Tim, que j'avais trouvé par internet en fait en voyant sa bande démo. Je l'avais trouvé incroyable. Je trouvais qu'il avait un charme fou. Il était drôle. Et je l'ai contacté et il était moins en place sur la scène parisienne, un peu plus jeune que Muriel. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui, je pense, va exploser dans les années à venir. Et du coup, voilà. Donc, lors des auditions, quand j'ai auditionné Muriel pour jouer le personnage de Manon, vraiment, c'était une évidence. Enfin, ça. C'était exactement le personnage que j'imaginais. Tout de suite, la manière dont elle l'a interprété était exactement la manière dont j'imaginais Manon se comporter. Et j'ai flashé. Après, j'ai eu très peur parce qu'elle m'avait dit, comme c'était bénévole, elle m'avait dit que si elle avait une proposition de travail, même jusqu'à 2 semaines avant le tournage, elle serait obligée de dire oui. Et donc jusqu'à 2 semaines avant le tournage, j'étais paniqué à l'idée qu'elle me dise au dernier moment qu'elle pouvait pas, et j'aurais dû trouver une autre comédienne en 2 secondes. Et ça, c'était particulièrement effrayant parce que bah voilà, c'était elle quoi.
Est-ce qu'elle était prédisposée pour avoir ce rôle avec justement la pratique du travail de la terre? Ou alors, comment s'est opéré j'imagine qu'il y avait un potager hein, sur le lieu de tournage, avec des saisons précises pour justement... Je ne sais pas sur quelle période se couvre cette fiction, d'ailleurs.
On l'a tournée au cœur de l'été. Voilà, donc ça se passe en été. Muriel, elle avait des... son papa était paysan, donc elle avait quand même des référentiels. Après, Muriel est très très éloignée de Manon, quoi. C'est une comédienne qui vit à Paris. Son métier, c'est d'être comédienne. Mais du coup, c'est ça un peu la magie du cinéma, c'est que voilà, on lui met un jean, un t-shirt, et on lui dit de travailler la terre. Et d'un seul coup, on y croit parce que voilà, elle a à la fois ce talent-là et aussi il y a tout le contexte, toute la décoration qui fait qu'on y croit.
Ce jardin potager. qu'on voit certainement dans ce film. Est-ce qu'il est adapté justement à cette idée de l'anticipation, de l'effondrement, et donc avec cette problématique de l'eau, j'imagine également, il y a toute une gestion. Est-ce que ça vous mettez en avant un peu tous ces aspects techniques du potager?
Alors en fait, le potager c'est assez drôle parce que si vous voulez, je devrais peut-être pas le dire aux gens qui vont voir le film, mais on est clairement sur un potager qui est pas du tout en capacité d'assurer la subsistance d'une personne, encore moins deux personnes. Mais l'idée, grâce au cinéma justement, on arrive à montrer les plans qui font qu'on y croit. Ensuite, moi, j'étais très très ignorant quand j'ai écrit le film début 2022 sur les questions agricoles. Depuis, je me suis énormément intéressé à ça, je me suis mis au potager dans le Diwa et voilà, c'est devenu un peu une passion. Mais à l'époque, j'avais une vision extrêmement vague. Par contre, la notion d'utilisation de l'eau est présente, la notion de potager est présente, mais c'est plus quelque chose de contemplatif. On n'est pas dans quelque chose d'explicatif du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça passe, parce que si j'avais voulu commencer à donner des cours de... je m'en serais pas trop sorti. Voilà, par exemple, à un moment, on parle de gourmands, les gourmands qu'il faut enlever sur les tomates, mais en fait, en vrai, en perma, en général, on n'enlève pas. Et puis, c'est vraiment, il y a deux écoles, donc il n'y a pas de... Voilà, en tout cas, on n'a pas la prétention de vouloir donner des cours d'agriculture, loin de là.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Est-ce que ce film est en quelque sorte une synthèse de votre expérience de reportage, de journaliste également?
Non, je dirais que c'est plus une synthèse de... Ah, alors ça dépend, si on parle d'un point de vue technique ou si on parle d'un point de vue du
narratif.
Sujet. Narratif. Du point de vue du sujet, non. Vraiment, comme je disais, c'est plus mon expérience depuis 5 ans, avec une prise de conscience écologique, tout ce que ça implique psychologiquement, et tout ce que ça implique de projection dans l'avenir. Toutes ces expériences-là, et puis surtout mes 2 ans et demi à partager C'est Sympa, le lien aussi avec les militants. En fait, j'ai rencontré le milieu militant à ce moment-là et ça m'a énormément touché. Les militants m'ont énormément touché. J'ai trouvé que c'était des personnes magnifiques et ils m'ont beaucoup, beaucoup inspiré pour le personnage de Manon. J'ai pu à la fois mettre l'impression que j'ai, à savoir d'être un parfait ignorant, complètement incapable de me débrouiller au travers du personnage de Tim. Et puis j'ai pu aussi mettre une forme de colère, de rage par rapport à ce qui se passe et que je ne peux jamais exprimer pleinement à travers le personnage de Manon. Donc en fait, c'est plus c'est une restitution de ce que j'ai pu traverser, ressentir.
Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience à la suite de cette pandémie du Covid-22, du Covid? Est-ce que ça vous a donné un coup d'envoi pour aborder ces thèmes dans le cinéma?
Je crois que le travail avait déjà commencé et le Covid n'a pas... Moi, je pensais que le Covid aurait des conséquences encore plus graves qu'il n'en a eu.
Mais on a pu peut-être remarquer aussi des changements de vie hein, de certaines personnes. Beaucoup sont venus s'installer dans le Diwa, par exemple,
ouais.
Et qui venaient de grandes villes. Est-ce qu'il y avait aussi pour vous quelque chose qui vous a marqué pour vous amener dans cette démarche?
Oui, ça a joué, mais comme je le dis, en fait, c'était déjà avant le Covid, les graines étaient plantées, toutes les lectures que j'ai pu faire à cette époque-là, Pablo Servigne, et puis tous les articles qu'on lisait avec Partager Sympa pour nos recherches, en fait, pour préparer les vidéos, tout ça, ça a été mon apprentissage. Et le Covid, oui, ça m'a donné plus envie d'aller dans la nature, mais pour le coup, de vivre à la campagne, disons, mais pour le coup, cette envie était déjà là. Le Covid n'a pas particulièrement accéléré les choses, et en fait... comme je disais, avec toutes les vidéos qu'on faisait sur les questions d'effondrement en 2019 et 2020 avec Partager C'est Sympa, moi quand le Covid est arrivé, j'avais vraiment l'impression que l'économie allait s'écrouler, enfin je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça. Au final, on a vu que voilà, les banques centrales mondiales ont envoyé des monnaies à tire-larigot sur le monde et on fait que le système ne s'écroule pas. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est plutôt une forme de résilience du système. qu'une fragilité, à l'inverse. Mais c'était plutôt l'idée que, en fait, ça c'est une idée qui vraiment m'a fait bouger, c'est plutôt de me dire, j'habitais à Lyon à l'époque, et c'était de me dire le monde naturel est en train d'être détruit, et j'ai envie de mon vivant, tant que je peux, de le voir tant qu'il est encore beau. Et j'ai envie j'ai envie de voir de la beauté en fait au quotidien, d'être proche de ce monde-là, et aussi ça allait de pair avec une envie de découvrir des savoirs manuels qui sont beaucoup plus faciles à exercer à la campagne qu'en ville, notamment par exemple m'essayer à la permaculture, ça me faisait rêver. Je lisais déjà des bouquins avant même d'avoir mis une seule fois les mains dans la terre. Donc c'était plus, ça allait aussi avec un nouveau choix de vie lié à la question de l'effondrement et cette prise de conscience.
Alors, il y avait un débat à la suite de cette projection, hein, de effondrer. Quels ont été les échanges ?
J'ai trouvé que le film était bien reçu. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Bah, c'est marrant parce que moi je trouve que le film est assez sombre. En tout cas, je l'ai écrit comme ça, et au final j'ai énormément de retours comme quoi il est assez lumineux. Donc à la rigueur, tant mieux. On a pu regarder aussi le making of qui a bien plu, parce que voilà, en fait c'était à la fois une expérience cinématographique mais aussi une expérience humaine très 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 riche et magnifique, et je pense que le making of permettait de restituer ça. Donc voilà, c'était un partage avec le public où il y a eu des interventions. On a parlé de différentes choses, on a parlé notamment de la question de l'entraide versus le survivalisme. J'ai pu un peu expliquer que même depuis l'écriture de ce film, j'ai moi-même beaucoup évolué d'un point de vue du point de vue de l'effondrement. Par exemple, le film montre un effondrement brutal, mais aujourd'hui on sait qu'il y a peu de chances que ce soit brutal, ce sera probablement très progressif. Il y a aussi la question de survivalisme, de la violence, et en fait des lectures plus récentes m'ont permis de relativiser cet aspect-là. Par exemple, Rebecca Solnit avec Un paradis en enfer, où le bouquin de Pablo L'entraide, l'autre loi de la jungle nous montre que en cas d'effondrement on n'est pas obligé de tous s'entretuer en fait, et que le réflexe naturel de l'homme, c'est d'abord de l'homme et de la femme évidemment, de l'être humain, c'est vraiment de s'entraider d'abord, et les réactions d'agressivité dans ce type de contexte sont plus des réactions d'agressivité des milieux disons aisés, d'élite, qui disposent de beaucoup de richesses et qui sont terrifiés à l'idée de la perdre. Et c'est plus par exemple dans les milieux politiques qu'on va avoir des réactions qui sont complètement contre-productives. Par exemple, je parle en cas de catastrophe naturelle, c'est ce dont parle Rebecca Solnit. Elle nous montre qu'en fait les réactions de violence viennent plus de l'armée et des dirigeants que du peuple, dont le réflexe premier est de s'entraider, d'aller chercher par exemple en cas de tremblement de terre les personnes qui sont sous les décombres, d'organiser des cantines gratuites, de trouver des ressources, des médicaments, etc. pour aider leurs prochains. Voilà, donc ça c'est des réflexions récentes et qui seront peut-être amenés à apparaître, j'espère, dans mes prochains travaux.
La carrière de ce film, vous avez déjà un système de distribution, ou comment sera-t-il visible ?
Alors, à l'heure actuelle, le film n'a pas de distributeur. Le problème qu'on a eu, c'est que c'est un moyen-métrage. Et le moyen-métrage, c'est vraiment un format bâtard. C'est-à-dire qu'il y a énormément de festivals de courts-métrages, des festivals de longs-métrages. Mais le moyen-métrage, entre 30 minutes et 1 heure, c'est beaucoup plus rare. Les festivals préfèrent, par exemple, passer 3 films de 20 minutes qu'un film d'1 heure. Donc ça a été assez difficile de l'envoyer en festival, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc il a été à Armoricourt en Bretagne, il a été au Festival international du film écologique et social de Cannes. Aujourd'hui, j'essaie de le montrer dans des salles locales. Par exemple, j'essaie d'organiser une diffusion au Pestel à Die, une diffusion à Cray. Je vais essayer de le passer à Lyon, à Grenoble. Pour l'instant, il est plutôt passé dans les sphères écolo, parce que à la fois c'est moi mon milieu, et puis c'est aussi en tout cas les personnes qui sont sensibles à l'écologie seront clairement plus sensibles à ce film. Voilà, pour l'instant, c'est les pistes que j'ai. Je ne le diffuse pas encore sur Internet. J'attends pour cela de l'avoir envoyé dans suffisamment de festivals, parce qu'il y a des festivals qui restreignent l'accès aux des films s'ils ont déjà été diffusés sur Internet. Et par ailleurs, j'étudie les possibilités de faire appel à un distributeur. Mais encore une fois, un film de moins d'une heure, c'est très compliqué à distribuer. Il y a peu de créneaux, y compris à la télévision. Voilà, donc affaire à suivre. En tout cas, je m'efforce d'essayer de le faire vivre avec mes petits moyens.
Est-ce que pour vous, il est envisageable de produire un long métrage à venir?
ce serait le rêve. Ce serait le rêve.
C'est une question naïve, hein, peut-être.
La problématique, c'est qu'il faut d'abord convaincre une société de production. Pour convaincre une société de production, il faut d'abord passer le film dans un maximum de festivals, qu'il soit vu par des prods et éventuellement gagner un prix. Ça aide, on a eu la chance de gagner un prix au festival Armoricourt, mais qui est plutôt quand même un petit festival. Typiquement, ça aide à convaincre les sociétés de production. Là, je suis en contact avec des sociétés de production, plus pour des projets de série à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas encore concret, il n'y a rien de signé. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Mais bien sûr, le rêve, c'est de faire série, long métrage, parce qu'en fait, ça permet déjà de rémunérer les gens qui travaillent, ce qui n'était pas le cas ici, de vivre de mon métier, et puis d'avoir des moyens de ses ambitions, avoir des moyens pour pouvoir faire des scènes un peu plus complexes, plus chères à réaliser.
Et vous avez eu les moyens grâce aussi au financement participatif. Je crois que c'est Ulule hein, qui s'est chargé de ça. Pour vous, c'est un bel outil, Ulule, et comme d'autres plateformes de financement participatif.
Alors, c'est pas Ulule qui a fait le financement, dans le sens où en fait Ulule c'est juste une plateforme et c'est les personnes qui montent les projets qui s'occupent de tout en fait. Alors, ils nous donnent des conseils, mais c'est pas non plus fou. Si, les conseils sont bons quand même. Moi, j'ai fait un financement participatif en visant 8000 euros. Et donc ça voulait dire, c'était tout un travail de création de vidéos pour parler de mon projet, inciter les gens à venir aider. Majoritairement, ça reste quand même mes proches, amis, familles qui ont aidé à financer le projet. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est clair que le financement participatif, c'est essentiel et j'aurais pas pu faire le film sans ça, c'était impossible, donc ça c'est une grande chance. Après, Ulule en particulier, moi je le conseille pas forcément, dans le sens où ils prennent 8% de la somme à la fin, sachant que nous par exemple on était vraiment chaque euro comptait. Et je crois que sur HelloAsso par exemple on peut vraiment faire des financements participatifs où je pense que HelloAsso prennent, alors je suis pas spécialiste, mais je crois qu'ils prennent moins. Aujourd'hui, je croyais qu'avec Ulule, je pourrais toucher des gens que je connaissais pas, mais au final, les gens que je connaissais pas, c'est vraiment une minuscule partie de la somme complète. Et donc, à ce compte-là, autant passer par HelloAsso et essayer de jouer sur mes réseaux, sur les vrais réseaux en local les amis, la famille, et faire connaître le projet, histoire peut-être de récupérer une plus grande partie de la somme qu'on a obtenu.
Est-ce qu'il y a une musique dans ce film?
Alors oui, il y a eu un très gros travail sur les musiques. Ça, c'était un aspect que j'ai vraiment adoré dans la collaboration et donc dans la réalisation de ce film. J'ai rencontré au Festival du Scénario de Valence une compositrice qui s'appelle Julie Caps, qui a beaucoup aimé le scénario et qui ça lui parlait en fait la thématique de toute cette thématique écologique lui parlait beaucoup et donc elle m'a proposé de qu'on travaille ensemble donc elle aussi en bénévole et on a vraiment eu une collaboration très très étroite dans le sens où d'abord elle m'a proposé des musiques et là j'ai tout de suite vu que ça allait marcher parce que j'ai adoré ce qu'elle m'a proposé. Derrière, moi j'ai commencé le montage et quand j'ai eu une espèce de V1, alors c'est plus un ours à ce niveau-là, un ours c'est vraiment les plans mis bout à bout, à ce moment-là j'ai pu lui montrer cette première version du film qui était encore très très basique. et lui dire voilà quelle musique j'imaginais ou et elle aussi elle m'a dit voilà est-ce que je vois de la musique ici, à mon avis là c'est plutôt des silences et j'ai essayé lui. Et très tôt, je lui ai envoyé des références de musique qui m'inspiraient. Donc, par exemple, on a la musique, le thème de First Man qui est joué à la harpe. Et ça, c'est vraiment un thème que je trouve absolument sublime. Alors, je me souviens malheureusement plus du nom du compositeur. Il y avait aussi une musique qui m'a accompagné dans tout le projet, en fait, qui m'avait accompagné dans le projet de long métrage que j'avais à la base. Et dont j'ai tiré un peu effondré en quelque sorte, c'est la bande son de Alexandre Desplat de Battre mon cœur s'est arrêté, le thème du film qui m'a vraiment énormément marqué. Et puis entre autres musiques. Et du coup j'ai envoyé ces références à Julie. Elle a travaillé. Ensuite on s'est rencontrés. Je lui ai montré le film. Là, on a déterminé un peu qu'est-ce qu'on voulait comme type de musique, à peu près la durée, quelle était l'ambiance de la musique, quel type d'instrumentation. Elle est repartie chez elle et là elle a travaillé. Et au fur et à mesure, elle m'envoyait les musiques, au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles. Et ensuite, moi, je les mettais sur le montage. Et là, il y avait un nouveau retour où je disais, voilà, là, ce serait cool qu'on accompagne tel moment avec tel truc, avec tel instrument à ce moment-là, telle note, etc. Enfin, j'allais pas jusqu'à lui donner les notes parce que je suis pas musicien. Mais en tout cas, j'essayais de lui... Il a fallu qu'on forge un langage commun, vu que je ne suis pas musicien, mais j'adore la musique, et donc j'avais vraiment des idées souvent assez précises de ce que je voulais, et donc il fallait arriver à trouver des mots, parce que voilà, les musiciens, ils ont vraiment leur propre langage, et donc je parlais en émotion, en rythme, et en instrumentation, et c'est comme ça, un peu en tâtonnant, qu'on est arrivé à trouver un équilibre, et qu'on est arrivé à trouver notre chemin ensemble.
Dernière question, est-ce qu'il y a des moments de contemplation dans ce film ?
Oui, beaucoup, énormément. En fait, c'est une ode à la nature, ce film, vraiment. Et du coup, j'ai voulu... C'est pour ça qu'à la base, je voulais faire un court-métrage et que c'est devenu un moyen-métrage de 57 minutes. C'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de passages. Enfin, j'ai vraiment essayé de donner une temporalité... une rythmique assez lente au film. Enfin, disons que j'ai voulu prendre mon temps pour observer ce qui se passait. Notamment, j'ai été pas mal inspiré par le film Jeremiah Johnson de Bim Bim Bim. Zut, j'ai un trou aussi. Puis je suis un peu déconcentré par la chorale.
Voilà, mais ça c'est la magie des rencontres de l'écologie. Olivier Scalon, je vous remercie en tout cas d'avoir donné un peu de votre temps à RDWAP.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Et bonne soirée. Merci.